Voilà, donc nous sommes le 12 mars aujourd'hui, donc à la gare Jonction, en présence donc de Bernard Barito. Vous êtes venu hier donner une conférence à la médiathèque de Grandvillard dans le cadre des amitiés littéraires André Beuclair. Et donc j'avais envie de vous poser quelques petites questions par rapport justement à cette petite rubrique, la bibliothèque en vadrouille, qui va à la rencontre des auteurs et des personnalités qui sont ici dans le territoire de Belfort. Donc peut-être d'abord un mot sur votre parcours très rapidement, et notamment nous évoquer ce centre que vous avez fondé en 88, qui a un nom assez intéressant. Enfin, quand on ne sait pas ce que ça évoque déjà une forme de poésie, le CRAM, donc autrement dit le Centre de réflexion sur les auteurs méconnus.
Alors c'est un centre effectivement qui est très limité d'ailleurs, hein. Ces archives se limitent à un tiroir dans mon bureau, mais enfin c'est un centre qui a pour but de s'intéresser aux auteurs, aux écrivains qui ont pu avoir une certaine célébrité à un certain moment et qui ne sont plus lus, ne sont plus édités, ne sont plus connus. L'idée m'en était venue lorsque je travaillais sur Pierre Macorlan, à qui j'ai consacré plusieurs ouvrages et une thèse. Et alors j'avais rencontré à cette occasion un grand nombre d'écrivains dont on ne parle plus du tout. Et certains de ces écrivains étant toujours fort intéressants. C'est pourquoi j'ai créé ce centre qui a d'abord publié un bulletin et puis maintenant publie une revue. Une revue dont le titre est significatif, puisqu'il s'agit de la Corne de Brume. Donc il s'agit de prêcher dans le désert ou dans la brume, si vous voulez, et de rappeler l'existence de ces écrivains. Donc c'est une revue qui se veut un petit peu sur le modèle des revues à l'ancienne, qui publie quelques textes de création et beaucoup d'études, chacun mettant ce qu'il veut. Évidemment, il ne faut pas parler de Valéry ou de Proust, hein, mais enfin tous les autres sont les bienvenus.
Et quelle est sa périodicité, puisque donc, vous avez dit que c'était d'abord un bulletin, donc si j'ai bien noté 15 numéros de 88 à 2000, et donc depuis que c'est une revue, quelle est la périodicité?
Un numéro par an, parce que nous sommes très peu nombreux, donc on ne peut pas faire plus. On sort un numéro en fin d'année, en général, qui est un numéro assez important, qui fait 200 pages, grosso modo.
D'accord. Alors moi, j'avais envie de vous faire réagir à un dessin d'un ouvrage, qui est dans un ouvrage intitulé « Synthèse littéraire et extra-littéraire », qui est un ouvrage que l'on doit donc à Gus Boffa, qui a été peut-être, on peut dire, un compagnon de Macorlan. Et justement, Macorlan disait à propos de lui, Gus Boffa est avant tout un écrivain qui a choisi le dessin pour atteindre ses buts. Et donc notamment dans ce petit ouvrage qui est assez étonnant, puisqu'en fait il s'agit de portraits, il y a ici donc une petite reproduction d'un dessin de Macorlan. Alors peut-être en quelques mots, justement, ce dessin-là, et puis peut-être plus globalement sur les amitiés littéraires de Macorlan.
Alors, le dessin représente en effet un personnage. C'est tout à fait caractéristique de Macorlan, si vous voulez. Il représente Macorlan. Macorlan, dans les années 20, grosso modo, qui est en train de pêcher à la ligne devant un bateau, un trois-mâts, battant pavillon noir. Et lui-même, Macorlan, a dans le dos de son habit, la célèbre tête de mort avec les piliers entrecroisés. Bon. Alors, cela correspond tout à fait à l'idée que se faisait Macorlan de l'aventure et qu'il a théorisé dans un ouvrage curieux qui s'appelle « Le manuel du petit aventurier ». Pour Macorlan, en gros, l'aventure est toujours décevante et elle n'existe pas. En définitive, c'est une chimère. Courir après l'aventure, c'est courir après une chimère. Bon, il distingue entre l'aventurier actif, qui est un crétin généralement, qui s'engage dans la Légion, comme son frère, ou qui devient pirate ou légionnaire, et l'aventurier passif, qui, lui, se contente de lire les récits, les romans d'aventure, et qui, quand il est écrivain, dans la paix de son cabinet, écrit des romans qui peuvent pousser les autres à aller vers l'aventure active. Voilà. Alors, le dessin représente tout à fait Macorlan installé en train de pêcher à la ligne dans son rôle d'aventurier passif, si vous voulez, et puis au loin, le bateau qui portera les aventuriers actifs vers la potence en fin de course. Alors, les relations entre Macorlan et Boffa sont anciennes. Macorlan voulait être peintre à ses débuts. Il n'a pas réussi comme peintre. Par contre, il faisait des dessins humoristiques qu'il parvenait à vendre à la fin des années 1900 à des journaux. Et environ en 1910, il collaborait avec un journal humoristique. Il y avait une presse humoristique très importante à l'époque. Il collaborait avec un journal humoristique qui s'appelait Le Rire. Le directeur artistique du Rire était un artiste assez connu à l'époque qui s'appelait Gus Boffa. Et alors Boffa a fait remarquer, selon la légende, aurait fait remarquer le premier à Macorlan que ses dessins étaient amusants, certes, mais que les légendes de ses dessins étaient encore supérieures. Et il lui aurait conseillé de développer les légendes de ses dessins et d'en faire des contes, ce qui aurait amené Macorlan à écrire des contes humoristiques, puis des romans, et ainsi à passer progressivement de l'état de dessinateur à celui d'écrivain. Voilà. Ce sont là les... Et après, bon, ben, ils sont restés en relation, évidemment, et très liés l'un à l'autre pendant longtemps, puisqu'ils ont collaboré à de nombreux ouvrages illustrés. Boffa a illustré des livres de Macorlan. Macorlan a été directeur artistique de certaines maisons d'édition auxquelles collaborait Boffa. Enfin, leurs relations ont été longues et amicales.
Très bien. Alors, je dois préciser, pour être tout à fait complet sur la référence, que ce petit livre donc, a été réédité il y a quelques années aux éditions Cornelius, et notamment, pour ce qui me concerne, je l'ai découvert quasiment il y a un an, lors d'une exposition à la Bibliothèque municipale de Belfort, consacrée à Boffa et les tranchées, qui était présentée chez nos collègues de la Bibliothèque municipale. Alors, ultime question avant de vous laisser tranquillement rejoindre la gare pour regagner votre domicile. J'ai également observé que vous aviez été quelque part, peut-être à votre manière, vous aussi un explorateur, puisque vous avez vécu dans des pays assez différents, les Malouines, la Grèce. Alors peut-être, c'est une question très ouverte, mais quelle est aussi, qu'est-ce que cette vie un peu en zigzag vous a donné comme expérience, déjà beaucoup de rencontres, j'imagine. Vous avez pu être nourri justement de diverses cultures et de diverses expériences, quoi.
Oui, bien sûr. Alors, bon, d'abord, j'ai commencé par écrire des poèmes. Quand j'avais, c'est comme ça d'ailleurs que je suis entré en contact avec Macorlan. J'écrivais des poèmes quand j'étais jeune homme. J'en ai envoyé un à Macorlan, qui m'a répondu très gentiment et qui m'a encouragé à écrire. Donc, ça a été le point de départ. Alors, après, cela a donné une première plaquette de poèmes. J'étais étudiant à l'époque à Poitiers. Et cette première plaquette de poèmes a été éditée par une petite maison d'édition qui était liée à une revue charentaise qui s'appelait La Tour de Feu. Alors, La Tour de Feu, c'était une revue libertaire, un petit peu, dirigée par un poète qui était aussi tonnelier de son état, qui vivait à Jarnac, et qui s'appelait Pierre Bouju. Bon. Alors il avait autour de lui un ensemble, bon, il y avait des poètes de qualités très diverses, évidemment. Les deux plus connus, si vous voulez, s'appelaient l'un Edmond Humeau, et l'autre Adrian Yatleff, qui était un russe blanc, personnage haut en couleur, et très intéressant d'ailleurs, et qui a publié un bouquin chez Gallimard, du reste, qui s'appelle, dont le titre est « Le sacrement du divorce », ce qui est évidemment très...
un titre assez fort.
Qui laisse beaucoup, beaucoup à réfléchir. Alors, à partir de là, si vous voulez, j'avais l'intention, je lisais Macorlan, j'avais l'intention de voyager, et j'ai commencé par aller faire mon service militaire loin. C'est-à-dire que je l'ai fait dans l'infanterie de marine, en Guyane, en Guyane et aux Antilles. Et puis alors après, j'ai fait une carrière un petit peu à l'étranger, une longue carrière à l'étranger. Alors j'ai été diplomate dans certains pays, notamment au Malawi. Le Malawi qui est un pays de l'Afrique de l'Est, oui, qui est à côté de la... entre le Zimbabwe et la Tanzanie, si vous voulez. Bon, j'ai occupé des fonctions diplomatiques encore en Grèce, à Colombo, à Ceylan, en Italie. Et puis, j'ai vécu en Belgique aussi. Et puis, j'ai été très longtemps professeur à l'université de Dakar, au Sénégal, avant de terminer ma carrière à Paris.
Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cet échange, comme ça, donc après votre conférence hier à Grand-Villard. Et on va souhaiter donc la suite... une belle suite pour cette exposition qui est encore visible quelques temps et ainsi qu'aux autres expositions, puisque je pense que vous l'avez vu, il y a un programme très riche dans le cadre de cette programmation, les amitiés littéraires d'André Beuclair. Merci à vous, monsieur.
Je vous en prie, monsieur Vélez.